Eh ben, n'attendons plus personne, on est en bonne compagnie, même si elle est réduite. Bonjour à tous, le thème de cette table ronde est « Adultes tyranniques, adolescents révoltés ». Nous avons quatre auteurs autour de la table qui ont traité de l'adolescence, ou de la jeunesse en tout cas, dans leur roman. Je vais vous les présenter en commençant par Ellie. Je fais dans la galanterie de base. Ellie, quatre cavaliers de l'Apocalypse, et on se retrouve avec Apocalypsis. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous présenter un petit peu votre pentalogie ?
Bien sûr. Donc en fait, j'ai décidé d'adapter la prophétie biblique des cavaliers de l'Apocalypse au monde contemporain, en choisissant quatre adolescents plus ou moins lambda pour en faire les cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, donc ça se passe dans un monde actuel et ça dit des tas de choses sur la quête d'identité, les choix, les possibilités, voilà.
Yves, avec Nox qui est votre nouveau diptyque et auparavant Métaux.
Ouais. Nox, la Nox, c'est la nuit. Enfin, j'ai imaginé que le monde était recouvert par un brouillard épais qui empêchait les rayons du soleil de filtrer, que les gens vivaient dans le noir, voilà. Donc c'est le destin de plusieurs adolescents qui vivent dans l'obscurité et qui doivent, parce que c'est un nuage pas seulement sombre mais aussi toxique, ont des vies très courtes, donc ont des choix d'adultes à faire très très jeunes, doivent se marier avant l'âge de 17 ans, la fille doit être enceinte au moment du mariage, etc. Parce qu'elle doit avoir le temps d'élever son enfant avant de mourir. Donc voilà, c'est un peu... voilà. En dire plus.
Non, pas de spoiler. Donc. Ouais. Joanne, alors, que se passe-t-il dans vos derniers romans plutôt jeunesse ?
Alors, dans ceux qui sont présentés ici, Flibustière et sa suite, Forban, comme l'on comprend à l'énoncé du nom, c'est de l'aventure historique dans le cadre de la piraterie au sens large, et on suit plus particulièrement deux adolescents, un frère et une sœur. Enfin, elle, dans le premier volume, Flibustière, on voit en gros, on la suit de l'âge de 8 à 16 ans, et comment, forcée par les circonstances et ensuite influencée par des choix personnels, elle a envie de s'émanciper, elle va devenir une femme pirate, elle va devenir une flibustière. Et dans le tout dernier, qui est sorti là pour les imaginales, on sait son jeune frère, on va voir comment lui-même... influencé par le modèle de sa grande sœur, va essayer également de s'engager dans la voie de la piraterie.
Dans Les Tempestaires, on avait déjà un traitement de l'adolescence.
Oui, et en fait, alors, dans une précédente série, enfin, en quatre volumes, là cette fois, mais plutôt de fantasy, j'avais dû me documenter sur le monde de la piraterie pour ne pas raconter non plus trop n'importe quoi. Je me suis tellement pris au jeu, je suis tellement tombé amoureux de cet univers que j'ai décidé d'y revenir, mais cette fois-ci dans un cadre purement historique. Voilà, c'est lié.
Victor, le cas Jack Spark.
Alors le cas Jack Spark, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Jack, qui pourrait être comme tous les autres, mais il a ce problème que j'ai eu moi-même adolescent, il est insomniaque, il a tout essayé pour dormir, il est allé voir tous les médecins en désespoir de cause. Ses parents vont l'envoyer dans un camp de rééducation dans le Colorado, à Red Rock, où on prétend soigner, normaliser les adolescents à problème. Il va se retrouver dans ce camp avec d'autres adolescents qui ont tous un parcours particulier, des problèmes qu'ils vont devoir surmonter, et c'est ici que commence l'histoire. Et c'est une tétralogie donc, qui se déroule sur quatre saisons, sur quatre tomes.
Alors, à l'heure on peut dire, de l'explosion de la littérature young adulte, je pense qu'on est tous des adultes lecteurs de young adulte aussi. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, qui êtes tous des adultes, à écrire sur l'adolescence ? Qu'est-ce qui fait que c'est un thème qui vous tient sur l'écriture ? Est-ce que c'est la découverte de l'altérité ? Est-ce que c'est parce que adolescence et révolte sont un duo inséparable ? C'est quoi vos motivations ? Qui a envie de se lancer ? Yves.
L'adolescence, c'est un moment de la vie où tout semble encore possible, quoi. Donc c'est aussi pour ça que c'est une période qui est intéressante à travailler. On a encore des rêves, on a encore... on peut en avoir après, hein, mais on a encore des rêves auxquels... on se sent libre, quoi, et on l'est dans la réalité beaucoup plus que quand on est adulte. Et puis, donc c'est vraiment un âge pour ça qui est intéressant. Après, la révolte, c'est un peu aussi inhérent à l'adolescence, c'est-à-dire il faut apprendre à se construire vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de son héritage, vis-à-vis de... Ouais, essayer de montrer qu'on est différent et qu'on va faire sa voix. Donc c'est pour ça que c'est intéressant.
Sans vouloir être psychanalytique, pas trop en tout cas, est-ce que on ne peut être, est-ce que c'est indissociable justement, adolescence et révolte? Est-ce qu'on peut pas être un adolescent qui grandit et qui se construit en dehors de la révolte?
Moi j'ai l'impression, pour rebondir ce que disait Yves, il parlait du rêve et de l'adolescence, que c'est l'âge du rêve, de tous les possibles, des idéaux, et c'est peut-être de là que naît l'instinct de révolte. C'est quand on confronte la grandeur de ses idéaux ou de ses rêves par rapport à la réalité du monde, c'est là qu'il y a un clash, c'est là qu'il y a un conflit, c'est là que c'est intéressant à mon sens pour un auteur, et c'est là que naît la révolte, la rébellion.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Non, je disais, enfin, pour ma part, j'ai pas l'impression d'écrire sur l'adolescence. Il se trouve que parfois, mais c'est nullement une obligation, mes héros sont des enfants ou des adolescents. Mais par exemple, dans le cas de cette série-là, ils vivent dans une société, de toute façon, qui ne laisse pas le temps. Enfin, le concept d'adolescence, il est relativement récent et il est valable dans des sociétés confortables comme les nôtres. Là, on est à fin du 18e, tout début du 19e siècle, dans les Antilles, etc. Et vu ce qui leur arrive, ils n'ont pas le temps de prendre leurs aises dans l'adolescence. Hein, il faut tout de suite... ils sont tout de suite confrontés justement à la réalité, voire à la pire des réalités. Donc voilà, ils vivent leurs aventures, ils y vont. Et sinon, oui, de toute façon, pour tout le monde ici a été adolescent. On sait très bien qu'on n'a pas tous vécu effectivement deux grandes aventures sur la base de nos révoltes, mais on a tous eu effectivement cette période de notre vie dans laquelle on a été en désaccord complet. Voire en opposition, enfin les phases d'opposition classiques avec l'entourage familial pour commencer, le monde, etc. Oui, ça fait partie de la construction de tout en chacun. Effectivement, ça, c'est aussi ce qui nourrit effectivement la littérature ensuite pour adolescents. Et ça me semble évident.
Élie ?
Je suis tout à fait d'accord. Je pense que pour se construire, c'est vraiment le terme clé. C'est important de se révolter pour apprendre à penser par soi-même. Et à devenir un adulte autonome et indépendant, il faut s'être révolté contre ce qu'on nous a inculqué, contre nos proches, même si après ça passe, normalement. Mais c'est une phase très très importante et qui, à mon avis, si on l'élude, risque de faire des dégâts tardivement, je pense que c'est...
Alors du coup, si la révolte est une progression et une étape normale et quasi obligatoire, est-ce que la tyrannie de l'adulte n'est pas elle aussi une situation quasi obligatoire? Est-ce que sans adulte tyrannique, est-ce que l'adolescent est amené à se révolter?
Disons que pour faire une bonne histoire, il faut que les adultes soient bien tyranniques, quoi. C'est vrai que voilà, dans nos histoires, en fait, on a tendance à en rajouter dans ce sens-là, justement pour qu'après, ça soit encore mieux, quoi.
On remarquera, enfin, il y a sans doute des exceptions, mais enfin, voilà, le plus souvent dans nos histoires, pour schématiser, l'ennemi que va affronter nos héros adolescents, effectivement, s'incarne dans les adultes. C'est assez rare d'avoir des confrontations adolescents contre adolescents. Je veux dire, ça existe certainement, je pense, hein, mais oui, effectivement, la figure du méchant, du mal, de faire comme on veut, elle s'incarne dans l'adulte. Alors, ce qui pose peut-être la question, est-ce que ce n'est pas nous qui avons un problème et qui voyons peut-être nos contemporains, nous-mêmes en tant qu'adultes, comme les adultes ne portent pas non plus tous les maux du monde sur leurs épaules.
Je me posais la question justement de savoir si l'adulte, il n'est pas tyrannique ou potentiellement tyrannisant, parce que lui-même vit dans son quotidien, alors j'espère pour vous que votre vie n'est pas comme ça, mais vit dans son quotidien la tyrannie du quotidien, la tyrannie du travail, la tyrannie des choses qu'il est obligé de faire et qu'il sait qu'il va devoir imposer à la vie de l'autre.
Là, on reviendrait encore une fois sur ce que disait Yves départ, avec la part de rêve qui peut-être s'amenuise un peu au fur et à mesure de l'existence, et éventuellement ça peut générer des frustrations qui rendent les adultes tyranniques. C'est en tout cas une hypothèse qu'on peut retrouver dans les livres. Ce qu'on disait également, c'est que l'adulte est souvent tyrannique de manière un peu grossie, on va dire, à travers le filtre de la littérature jeunesse, parce que ça renforce aussi le conflit, hein, j'ai l'impression. Hein. On est encore plus dans quelque chose de fort d'un point de vue romanesque. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il y a de pire dans un livre jeunesse, c'est pas finalement un adulte tyrannique, c'est un adulte bienveillant. Parce que l'adulte
qui va être là,
par exemple, mais c'est pour ça qu'il est finalement un peu en toile de fond et qu'à un moment, il disparaît même à la fin, parce qu'il faut vraiment que les jeunes héros tous les héros prennent vraiment les rênes de leur destin, se construisent, hein, comme disait Élie. Et si les adultes sont là pour faire à leur place, pour leur montrer le chemin, finalement, la construction n'est pas possible. Donc l'adulte tyrannique rend un énorme service à nos jeunes héros adolescents.
Mais en même temps, moi, je trouve ça très difficile d'être adulte et de ne pas être tyrannique avec les adolescents. Parce que l'adolescent est par essence très, très agaçant pour un adulte. C'est très antinomique. Il incarne tout ce qui... Voilà, il est très, très revendicateur, il est très arrogant, très présomptueux, il croit tout savoir, pas forcément...
Puis il remet en question les règles, surtout.
Il remet en question nos propres choix de vie, notre propre existence. Et c'est ça qui est difficile, effectivement, aussi, je pense. D'où le conflit qui est inévitable et qui est intéressant. Voilà, la relation se construit autour de ça, et c'est très sain d'être en conflit.
Est-ce que les adolescents sont un peu les noobs, les newbies de nos vies d'adultes à nous, qui viennent avec leurs questions que nous, on a déjà résolues, les interrogations qu'on n'a plus envie de se poser
Justement, les questions qu'on ne peut pas résoudre, c'est donc d'autant plus agaçant de se les entendre poser parce qu'on sait, parce que nous n'avons pas de réponse. Parce qu'il faut bien admettre, au bout d'un moment, je pense, c'est peut-être, disons moi, ma définition de la maturité, c'est admettre pour toutes qu'on vit dans le doute et que, ma foi, on n'a pas réponse à tout, loin s'en faut. Et comme l'âge de l'adolescence, cette sortie de l'enfance, c'est le moment où on a besoin de certitude, donc d'un socle solide sur lequel se construire. Et ma foi, avoir quelqu'un en face qui, s'il est honnête, doit dire ben oui, je ne sais pas, il n'y a pas de réponse possible, etc. Ou tout sont possibles, donc tout est son contraire, voilà, qui est déstabilisant. Donc,
c'est la grande désillusion. Quoi.
Oui,
c'est cette désillusion qu'on a tous eue.
Ah oui.
Effectivement, c'est peut-être le passage entre l'enfance et l'adolescence, et se rendre compte que les adultes n'ont pas toujours raison, n'ont pas toutes les réponses. Et c'est la fin des certitudes. En même temps, on en cherche d'autres qu'il faut peut-être construire soi-même.
Oui, c'est pour ça aussi que quand on construit des personnages d'adultes, c'est bien que ce soit tyrannique, mais il faut qu'ils aient leur raison aussi, quoi. Il faut pas que ça soit tout noir, c'est pas les adultes tout noirs qui n'ont rien compris, qui sont méchants pour être méchants, quoi. Voilà. Et, moi, j'aime bien que mes personnages, on découvre leur vraie motivation et qu'on puisse se dire que peut-être dans le même contexte, on aurait réagi comme eux et on serait devenu le méchant par rapport à d'autres, etc. Et, dans des logiques qu'on n'est pas toujours prêt à admettre.
Et alors pourquoi, pour situer vos adolescents révoltés ou vos adolescents en construction, pourquoi dans le domaine de l'imaginaire? La réponse bateau, c'est ce que j'aime écrire, je comprends bien, mais est-ce que le monde, les imaginaires SF, fantasy, fantastique, apportent un plus pour construire l'opposition, pour construire la révolte, pour construire la difficulté auquel l'adolescent est confronté? Est-ce que on pourrait pas faire du roman? Enfin, il y en a, hein, il y en a beaucoup, même de l'autofiction adolescente.
Qui en premier?
Moi, j'ai l'impression que le fantastique, la littérature de l'imaginaire et le fantastique en particulier, c'est nous fait encore un filtre grossissant qui permet de montrer le réel puissance 10, finalement. Hein, c'est faire un détour par l'imaginaire pour mieux parler du réel, de manière peut-être parfois plus directe, et ça permet, une fois encore, de grossir le conflit. En ce qui me concerne en particulier, mon matériau d'inspiration de base sont les contes pour enfants, mais dont je donne une version plus adolescente, peut-être un peu plus mature. Et c'est vrai que ces figures d'adultes tyranniques, face à des adolescents ou des enfants révoltés, peuplent tous les contes. On pense au marâtre par rapport aux jeunes personnages de jeunes filles, par exemple... La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, on pense également au personnage d'Ogre par rapport au Petit Poucet, donc ce sont à chaque fois des adultes tyranniques mais qui sont démultipliés par le filtre du fantastique ou du merveilleux face auquel des enfants, des adolescents vont devoir se construire en surmontant, en battant ces adultes monstrueux.
Justement, est-ce que vous pouvez nous donner un petit moment de révolte dans Jack Spark?
Alors, c'est au tout début du livre, donc c'est plutôt une révolte du personnage face à ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire ses insomnies dont il ne comprend pas l'origine. Il a l'impression qu'il va en souffrir durant toute sa vie et c'est un moment de grand découragement où il baisse les bras finalement. Donc c'est un moment de révolte qui se conjugue avec un moment de désespoir. La fatigue. Ceux qui sont capables de dormir ne peuvent pas savoir. Comment leur expliquer les journées entières à se traîner dans les couloirs du collège, à se concentrer tellement fort pour ne pas fermer les paupières qu'on oublie tout le reste, les profs, leurs exposés, leurs questions? Il faut l'avoir vécu soi-même pour la comprendre, cette rumeur qui tourne dans la tête, de l'aube au crépuscule, cette meule qui écrase la cervelle jusqu'à la réduire en bouillie. Il faut les avoir ressentis dans sa chair, ces fourmillements le long des jambes, quand vous marchez entre deux salles de cours avec l'impression qu'une colonie de sangsues vous vide de votre force entre quelques secondes et que vous êtes obligé de vous appuyer contre le mur. Sans parler de la morsure du jour, qui brûle la chair, qui crève les yeux et qui dessèche les narines. Ça fait 15 années que ça dure, peut-être. Mais chaque année, le calvaire recommence comme au premier jour. On ne s'habitue pas. On ne s'habitue jamais à la fatigue. Alors oui, j'ai peur. Tout le temps. J'ai peur chaque soir de me coucher. J'ai peur de m'endormir et de me retrouver prisonnier du couloir sans fin. J'ai peur de me réveiller. J'ai peur du sourire cruel de Grincheux et des chiffres inscrits en lettres digitales sur son ventre obèse. J'ai peur de l'attente interminable jusqu'au lever de ce soleil détesté, à compter indéfiniment les heures de sommeil perdues. J'ai peur de la journée qu'il faut affronter, celle qui vient, et aussi toutes les autres qui suivront. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de l'avenir. Et je n'ai que 15 ans.
Ouh. Et est-ce que justement, on le voit bien avec cet extrait, est-ce que quand on est adolescent, on n'a pas cette certitude d'être le seul à vivre une situation catastrophique, difficile? Est-ce que grandir, c'est pas découvrir qu'on n'est pas le seul à être autre?
Moi pour terminer, j'ai l'impression effectivement que l'adolescence, ça peut être une période de très grande solitude, surtout quand on découvre qu'on a une différence, et la plupart, on est tous différents, donc on est tous susceptibles de découvrir une différence particulière autour de laquelle on peut finalement s'enfermer, ne pas communiquer et souffrir en silence. Et c'est effectivement aussi à l'adolescence qu'on socialise le plus, et c'est l'époque où on peut surmonter cette solitude. Donc c'est à la fois l'âge de la plus grande solitude et l'âge de la solution à la solitude, sans doute.
Élie, vos cavaliers sont seuls ou...
Oui, ils sont très seuls, mais ils sont très seuls comme un tas d'adultes aussi. Enfin, moi, parce que je travaille un petit peu dans ce domaine, je sais que chaque personne qui souffre se sent très très seule. Et elle a beau savoir qu'on souffre ailleurs, notre souffrance est toujours incomprise, la plus importante, la plus totale. Je dirais, les autres ne comptent pas tellement, à n'importe quel âge. On a toujours l'impression que notre douleur est la seule qui compte. Elle est toute nouvelle, elle est qu'à nous et elle est immense. Quoi. Donc je ne suis pas sûre que ce soit propre aux adolescents, ce sentiment de solitude totale.
Adulte, on peut peut-être avoir plus de facilité à la partager ou à consulter ou à... Enfin, non ? Vous croyez pas ?
Je suis pas sûre.
Okay. Il me semble qu'il y a une expression adolescente très particulière qu'on retrouve à d'autres âges, mais quand même assez spécifique de l'adolescence, qui est le journal intime. Et qui, pour moi, traduit assez bien cette difficulté à communiquer aux autres. C'est-à-dire que finalement, la seule échappatoire, le seul exutoire possible, ça va être un journal adressé à soi-même.
Qui est un espèce de miroir dans lequel on...
Et le journal est souvent offert par un adulte. Oui. Voilà.
Yves, ce choix d'adolescents qui sont confrontés à des choix adultes rapidement, c'est une façon de les faire... De les faire avancer plus vite
C'est-à-dire, quand on écrit enfin, en tout cas, quand moi je commence à écrire un livre, souvent je n'ai pas vraiment de projet précis, quoi. Donc je suis parti sur une envie de faire vivre des gens dans le noir au départ. Et après, pour donner une cohérence, une vérité, un réalisme à ça, j'ai créé le contexte dont je parlais tout à l'heure. Et après il y a la voix de celui qui raconte ou là de ceux qui racontent, parce qu'ils sont plusieurs à raconter alternativement, et après le roman il va se développer comme ça. Alors c'est sûr que le fait de les confronter à des choix d'adultes très jeunes, ça m'intéressait. Je voulais faire un roman justement pour ados, mais un roman pour plus mûr, quoi, voilà, avec vraiment des enjeux très forts, comme les enjeux de la sexualité par exemple, qui arrivaient très très jeunes, et on a eu une inversion complète par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, puisque les parents même encouragent leurs enfants à avoir de la sexualité très jeune, puisqu'ils veulent, c'est une question de survie, quoi. Donc ça m'intéressait aussi d'être dans ce genre de choses. Et après, c'est vrai que le livre, il se construit comme ça, parce que tous ces enjeux ont des cohérences les unes avec les autres. Voilà. Et puis, c'est comme un fil qu'on déroule, quoi.
On peut justement en avoir un extrait ?
Oui. Donc c'est une scène entre le narrateur qui s'appelle Lucin et sa copine qui s'appelle Firmi. Donc tout à l'heure je disais qu'ils vivaient dans le noir, et donc le seul moyen de se voir, c'est qu'ils doivent fabriquer leur énergie eux-mêmes. Donc là, ils ont des systèmes sous les pieds, par exemple quand ils marchent, des systèmes de chenillettes qui frottent sur le sol. avec un système de dynamo pour pouvoir se déplacer.
Un peu comme les baskets qui roulaient un certain
voilà,
temps là.
Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est pour qu'on comprenne la première phrase en fait. Après m'avoir longuement embrassé, Firmi s'écarte, me prend les mains et frotte ses chenillettes en faisant du surplace. Elle est en mode éclairage. Elle aime me regarder quand on parle. Je l'imite. Comme les mécanismes sont assez bruyants, nous sommes obligés de bien articuler pour nous comprendre. « Mes parents m'ont encore parlé de ce que tu sais, » dit-elle d'un air grave. « Et tu leur as dit quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? Que quand je regarde ma mère avec son regard triste et résigné, son corps épuisé qui pèse des tonnes, je me vois moi dans quelques temps, et ça me fait horreur. Arrête de parler de ta mère, tu es très différente. Tu n'as pas vu la photo de son mariage, on dirait moi aujourd'hui. Pour vous les gars, ce n'est rien. » Vous ne changez pas, nous on devient autre chose quand on se met à faire des gosses. Et je n'en ai pas envie. Pendant plus de 15 ans, ma mère a enchaîné les grossesses pour finalement n'avoir que mes deux frères et moi. Elle n'a jamais voulu me dire combien de petits sont morts dans ses bras, à peine sortis de son ventre, et elle voudrait que je vive ça à mon tour. Dimanche, on ira au cinéma si tu veux. Elle ne répond pas, arrête de remuer ses jambes et se penche sur moi. Je la prends dans mes bras, elle pleure doucement dans le noir et me murmure à l'oreille. C'est si dur, Lucin. Et si on partait ailleurs tous les deux ? Tu sais bien que ce n'est pas possible. Quand bien même ce serait permis, c'est partout le même enfer, sauf qu'ici, c'est chez nous.
Ça donne envie de ce chez eux. Alors, est-ce qu'on n'a pas, des adultes qui sont incapables de proposer une autre solution aux ados. Est-ce que les ados sont pas ceux qui disent non, nous on va pas être dans la reproduction du modèle que vous nous proposez?
Nox, c'est vraiment un livre sur l'héritage. C'est-à-dire, c'est vraiment la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'héritage de nos parents? Comment on se définit par rapport à nos pères? Là, c'est les pères qui sont très forts et enfin très forts de manière assez différente. J'ai trois personnages, trois narrateurs avec un père qui est une sorte de qui est une chef d'une milice locale ultra violente, raciste, etc. Et son fils, il est dans ce moule-là. Il doit fonctionner comme son père. Il est fasciné par son père, mais en même temps, voilà, il commence à se poser des tas de questions, à se demander si c'est bien la voie à suivre. Et en même temps, c'est la voie que la société lui a tracée. On doit suivre l'exemple de son père. On doit faire le même métier que son père. On n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on pourrait avoir envie de faire. La vie, elle dit, tu feras la même chose que ton père. Et c'est à chacun qui doit se poser comme ça, comment est-ce qu'on doit se définir par rapport à ses parents. Et j'ai un autre personnage qui a un père qui est très falot, qui prend pas position, qui est très, très en retrait. Et lui, il est dans les mêmes conflits, quoi. Cette image du père, il faut aussi qu'il s'en débarrasse. Lui aussi, il aura envie de faire des choses. Et il y a une sorte de pression pour dire non, ne fais rien, ne sors pas du rang. Tu vois, la vie est plus facile quand on obéit, etc. etc. Voilà. C'est des modèles à dépasser. Quoi.
On est dans le tuer le père, forcément, à l'adolescence. Je sais, c'est là aussi très psychanalytique, mais...
Il n'y a pas de mal, je viens d'être psychanalytique. Oui, enfin... Pour moi, oui, enfin, ça relève de cet ordre-là. Oui.
Parce que souvent, en fantaisie, on est sur un cliché de personnage qui est le personnage orphelin, qui n'a pas grand-chose à tuer, justement.
C'est le propre des grands récits. Et la question, forcément, souvent, un débat ce matin, on a abordé cette question. La question de la filiation ou de son absence, c'est justement, elle est au cœur de tous ces grands récits. Ben, moi, je citais comme exemple, moi, je suis de la génération Star Wars, et Luc, je suis ton père.
Spoiler.
C'est quand même là, toute la clé est là, hein, de la trilogie, de la première, les autres, faut oublier. Mais, soit on grandit par opposition, parce qu'on connaît son père, et alors, métaphoriquement ou pas, on le tue, parce qu'en plus, l'histoire, on connaît ça à l'histoire... s'intéresser à certaines familles, on le tuait vraiment, le père, hein, quand il fallait s'en débarrasser pour monter sur le trône à sa place. Là, c'était pas psychanalytique. Et donc, ou on le connaît et on s'en débarrasse d'une manière ou d'une autre, ou on ne le connaît pas, et puis le moteur d'une intrigue, c'est finalement qui est-il, et puis jusqu'à la révélation finale. Donc, c'est vieux comme les histoires.
Élie, je vais lire un passage de votre Cavalier Rouge. Elle avait du chagrin, je le sais parce que ce sentiment se diffusait lentement en moi et qu'il ne venait pas de moi. Je me suis sentie minable, pire que son gâteau à la con. J'avais mordu une main qui voulait me caresser, J'étais vraiment mauvais. En même temps, je devais me ressaisir. J'aime pas les caresses. J'en demande pas, j'en fais pas. Qu'on me foute la paix. Alors, c'est ce que j'ai sorti, comme un dégueulis de méchanceté. J'aime pas les caresses. J'en demande pas, j'en fais pas. Tu m'as pris pour un caniche avec ton sucre ou quoi ? Elle secouait la tête, prête à me répondre. Elle tenterait sûrement de me calmer avec sa douceur légendaire si gavante. J'allais pas lui faire ce plaisir. Pour qui elle se prenait, elle, à se pointer dans ma vie pépère avec ses bondieuseries prétentieuses ? J'étais pas sa bonne action, du moins. Elle allait pas transformer mon futur crasseux en lendemain qui chante. J'étais bien, moi, dans ma misère prévisible. Tout était sous contrôle. J'avais pas besoin d'une fée marraine à la mort moelle-neuve pour se pencher sur l'auge qui me servait de berceau et mettre des paillettes dans ma merde. Voilà. Là aussi, un ado qui finalement, qui n'a pas tellement envie qu'on le tire de là où il est, qui n'a pas envie de changement.
En fait, c'est sa zone de contrôle. Hein. Donc on évolue tous dans notre monde et on le gère à peu près. L'inconnu fait peur, même si c'est pour connaître quelque chose de mieux. Voilà, on préfère souvent quelque chose de prévisible, même si ce n'est pas très satisfaisant, mais c'est nos univers respectifs et personnels. Personne n'a envie de se confronter à des choses inconnues spontanément.
En plus, on va avoir l'impression, quand on remet en cause le contexte dans lequel on vit, que c'est une remise en cause personnelle également.
Et donc, total, on n'a plus rien, on n'est plus rien. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de la vague young adulte qui est très post-apocalyptique, dystopique, est-ce que c'est un nouveau choix de proposer des ados dans des mondes explosés ? Vos mondes sont plutôt des mondes qui fonctionnent. Est-ce qu'on est tous obligés d'être... Enfin, est-ce que c'est une façon différente de voir les choses que de proposer une fin de monde ?
Ça traduit une envie de changement, je pense, une envie de d'autre chose, de nouveauté.
Une envie de changement dans une époque qui se prête moins aux utopies et aux lendemains qui chantent. Notre forme de changement, c'est la destruction. D'où ces livres apocalyptiques ou dystopiques, comme on dit aujourd'hui. Pour prendre un des plus fameux d'entre eux, Hunger Games, je pense que c'est aussi, là encore, des adolescents qui se révoltent contre la loi des adultes. Donc cette loi inique des sacrifices inspirée du Minotaure. Et c'est par les adolescents que vient la remise en cause, finalement, de cette société totalitaire.
Vous vous sentez comme des personnes qui ont envie de remettre en cause par vos personnages ? Est-ce que vous questionnez la société par vos personnages ?
Ouais, on pourrait dire ça un peu quand même. C'est-à-dire, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le projet de départ du livre, mais quand on écrit, on met des choses qui viennent de soi, donc on met aussi des valeurs auxquelles on croit. Moi, j'ai écrit une trilogie avant qui s'appelle Métaux, et Métaux, c'est vraiment... C'est des ados qui vont se retrouver avec la possibilité de reconstruire un monde. C'est-à-dire qu'ils ont un lieu géographique qui leur appartient, ils récupèrent un endroit à la fin, une île protégée, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent recréer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont recréer ? Au départ, ils ne savent pas trop, parce qu'on ne les a pas du tout élevés dans une idée de... On les a élevés dans une sorte de dressage, de choses comme ça, donc... Ils sont violents, ils sont etc. Mais moi, j'avais cette ambition quand j'écrivais ça. Je me disais, mais voilà, je mets des ados dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on ferait de ce pouvoir, finalement ? Qu'est-ce qu'on ferait de ça ? Et j'ai construit sur chacun des tomes. En fait, il y a comme un projet utopique de vivre ensemble. On va dire plutôt des projets dystopiques de vivre ensemble pour les deux premiers. Et quand même, sur la fin, ils vont quand même essayer de faire quelque chose un peu bancal, mais qui leur correspondra et qui leur semblera le plus juste. Voilà, donc c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose aussi, nous, c'est-à-dire aujourd'hui, on a l'air de nous dire il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus rien, il n'y a plus que le marché, il n'y a plus que ça, voilà, bon. Oui, forcément, ces questionnements-là, ils peuvent réapparaître quand on est en train d'écrire. On se dit, voilà, si on avait toutes les clés en main, qu'est-ce qu'on proposerait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et voilà, même si c'est... Je te disais, c'est pas le but premier quand j'écris mes histoires, mais voilà. Ça s'impose dans l'histoire, quoi. Voilà. Ils ont le pouvoir, qu'est-ce qu'ils en feraient ? Et j'ai pas envie qu'ils passent seulement leur temps à pique-niquer, à regarder la plage. C'est vrai, voilà. Ils se disent, voilà, on a le pouvoir, ben, on en fait quoi, alors ? Comment on se régit les uns les autres ? Est-ce qu'il y a encore une autorité ? Si c'est laquelle, elle est comment ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on a le droit de choisir ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Voilà.
Élie, vos cavaliers nous conduisent vers l'apocalypse, ou sans vouloir spoiler la fin, bien évidemment, mais est-ce que c'est ce mouvement-là, c'est un mouvement sombre ? J'y reviendrai après, mais vous parlez beaucoup d'adolescence dans des situations sombres.
Après, c'est une vision de l'esprit, une vision du monde. Est-ce que c'est sombre de vouloir détruire un monde tel qu'on le connaît actuellement ?
Est-ce que Bonne question.
Voilà. Est-ce que c'est pas plutôt la plus grande démarche d'optimisme ? Après, tout est une question de point de vue. J'essaye de réfléchir.
Soyez prêts pour la révolution. Hein.
J'essaie d'envisager les choses différemment. Donc ils passent, eux, évidemment, par cette réflexion-là. Est-ce que, on cherche toujours à savoir où est le bien, où est le mal dans toutes nos démarches. Finalement, est-ce que l'apocalypse serait un mal tel qu'on, au regard de toutes les horreurs qu'on a commises depuis que le monde est monde, est-ce que vraiment c'est... Voilà. Et c'est forcément une question qui vont se poser, qui vont être amenées à résoudre. Et c'est intéressant de se positionner aussi, nous, par rapport à ça. Parce qu'évidemment, on a tous des grandes désillusions, on a tous des grandes envies d'espérance et de confiance en autrui, mais on connaît la nature humaine. Finalement, ce qui nous révolte, c'est la nature humaine. C'est ce qui fait que les utopies resteront des utopies. C'est que notre propre nature est complètement défaillante par rapport à ça.
Même après l'apocalypse ?
Mais même après l'apocalypse, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des envies d'apocalypse, je pense. C'est ça le problème.
Heureusement qu'il y a un peu de soleil, parce que sinon...
Je suis hyper optimiste. Mais,
bon. Johan, je vais lire un extrait de Forban.
Je vais peut-être expliquer, parce que c'est un petit peu... Alors, c'est pas vraiment une révolte adolescente, c'est le point... voilà, comment dire. Le jeune héros, il n'a que 10 ans, donc alors, il n'est même pas adolescent, mais il s'ennuie dans sa vie, comme tous les enfants. Pourtant, sa vie devrait être formidable. Sa sœur est une pirate. Voilà. Sauf que, justement, c'est une vie tellement difficile qu'elle ne veut surtout pas qu'il devienne, lui, un marin et un pirate. Et donc, il s'ennuie dans son île, et puis... il ne sait pas trop quoi faire. Il fantasme sur la vie de pirate. Sa sœur rentre. Et, sauf qu'elle est sur les nerfs parce qu'elle vient de se faire dérober sa cargaison par de vrais pirates, donc elle n'est voilà, pas dans son état normal. Et voilà où on en est.
Jonas ne l'avait pas entendu arriver. Et pour cause. Le marmousset ronflait comme un bienheureux, allongé sur le dos, un chapeau de feuilles de palme tressé lui couvrant le visage. Alexia se hissa sans faire de bruit sur la plateforme. Puis, elle fit s'envoler le couvre-chef de son frère d'un habile coup de pied. Jonas se mit à cligner des paupières tout en se trémoussant. « Alex, c'est toi ?» Il se fendit d'un large sourire, s'étira et bâilla. « Depuis quand es-tu rentré ?»« Assez longtemps pour qu'Aristide m'en rapporte de belles à ton sujet. » Le sourire se figea sur les traits du garçon. « Oh, tu connais papa, il exagère souvent. »« Jamais !» le coupa Alexia. « C'est l'homme le plus honnête que je connaisse. »« Tu as l'air fâché, ma sœur, quelque chose te contrarie ?» Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase proverbial. Jonas affichait une expression de fausse candeur censée le prémunir du courroux des adultes. La mimique avait jusque-là fait ses preuves, mais pas cette fois. Alexia ne s'y laissa pas prendre. Elle redoubla au contraire de fureur. « Pas de ça avec moi » s'écria-t-elle. Elle eut alors un geste malheureux. Elle voulut se pencher pour attraper l'oreille de Jonas, histoire de la lui tirer un peu, mais les réflexes du marmouset étaient plus aiguisés que les siens. Il s'écarta vivement, une grimace aux lèvres, pour se moquer de la lenteur d'Alexia. Mais sans doute encore sous l'effet du sommeil, il avait oublié où il se trouvait. La plateforme de la grande une était seulement constituée de 3 longues pièces de bois serrées l'une contre l'autre. Le mouvement de Jonas l'amena au bord du vide. Un bref instant, la surprise se lut sur son visage, puis la terreur le remplaça. Ses lèvres formèrent 2 syllabes muettes. « Alex !» Puis, emporté par son élan, il bascula. Je ne vous dis pas la suite. Bien. Alors, on a beaucoup parlé de ce que c'est que d'être adolescent. Pardon. Est-ce que les héros adultes intéressants, c'est pas justement des adolescents qui sommeillent ? Est-ce que votre H.G. Wells, votre Jules Verne dans vos précédents romans, est-ce que certains de vos héros ne sont pas... Est-ce que dans beaucoup de romans, on trouve pas des personnages intéressants parce que ce sont encore ceux qui ont... un peu de force adolescente à offrir au monde.
Oui, ce sont, je crois qu'on en va employer le mot tout à l'heure, ce sont encore des rêveurs. Ils n'ont pas cessé de rêver, peu importe l'âge qu'ils ont. Effectivement, mon premier héros, le premier personnage que j'ai mis en scène dans mon premier roman, c'était Jules Verne, et à un âge avancé, il avait 60-70 ans. Mais j'en faisais quasiment d'armes, un super héros. Il avait encore ses rêves, il avait encore... C'était un... Oui, voilà. Je pense que nous... Pour ce qui me concerne, une bonne part de mes personnages adultes, ils ont conservé cette part en eux également de rêve et de révolte. Ils l'ont encore aussi. Oui.
Est-ce qu'il y en a parmi vos... On a parlé tout à l'heure de l'adulte trop bienveillant ou de l'adulte qui empêche la révolte, mais est-ce que quand même vous réussissez à écrire sur des adultes positifs, on va dire? Oula, pas Élie, donc passons.
Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. C'est vrai. C'est toujours des gens très frustrés, très tristes, parce qu'ils ont des regrets, des secrets, des choses inavouées, mais des adultes, quoi.
Donc tous les adolescents sont voués à devenir des adultes tyranniques ou des adultes mal dans leur peau ou, Ah, comment on fait alors? Quel est le ressort qui permet à vos personnages finalement d'aller vers peut-être un âge adulte un peu plus épanoui ou un futur un peu plus épanouissant?
J'ai l'impression qu'à l'exception peut-être de Joanne, on écrit surtout sur des héros adolescents, donc plutôt que sur des personnages adultes, en tout cas en ce qui me concerne. Donc,
mais leur devenir, comment, sans
pareil, toujours se projeter dans un livre futur qui serait 20 ans plus tard.
Est-ce que vos héros sont potentiellement de futurs adultes épanouis? C'est ça.
C'est nous-mêmes. Moi, titre personnel, je n'ai aucune idée de ce que deviendront mes personnages. Leur liberté de personnage, d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que je leur ai offert dans mes univers les conditions requises pour qu'ils s'épanouissent? J'en sais rien. Et là, est-ce que je suis un bon père, entre guillemets, pour mes personnages? J'en sais rien.
Voilà. Ouais. Moi, il y a dans Nox, à la fin du dernier tome, c'est deux tomes, donc j'ai fait un épilogue 10 ans après. Donc là, j'ai vraiment pensé à... En fait, c'était aussi une manière pour mes lecteurs de leur dire que c'était vraiment fini, parce que sinon ils me demandent toujours que je fasse des suites, alors je leur ai
c'est
dit...
C'est plutôt bon signe.
Voilà. Oui, non, c'est vrai que c'est bon signe. Donc là, je me suis dit, bon, allez, je vais faire un épilogue 10 ans après, comme ça, ils sont dans des positions d'être des parents, etc. Et finalement, oui, ça se passe plutôt, c'est plutôt apaisé, quoi. Ouais, ouais. Mais avec ce qu'ils ont vécu avant, ils ont quand même... Ils ont vécu tellement de choses que... Ils ont appris à prendre de la distance et tout ça. Et c'est vrai qu'ils sont assez apaisés. Alors maintenant, est-ce qu'ils seront parfaits? Sans doute pas, bien entendu. Est-ce qu'ils seront en conflit avec leurs enfants? Sans doute un peu aussi. Mais voilà, c'est pas... Oui, mais c'est la première fois que je le faisais. Ouais.
Et alors, pour revenir doucement dans le réel, est-ce que vous considérez comme des adultes tyranniques?
Pas assez. Hein.
Pas assez?
Non.
On n'est jamais assez trop tyrannique, c'est ça?
Bon, moi, j'ai la double... Enfin, je suis enseignant et père de famille de trois grands ados. Quand je pense à mes trois grands ados, je me dis, oui, pas assez tyrannique. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. J'étais trop cool avec eux, je pense. Mais bon, ils sont très bien, mais ils sont mous, quoi. Ils ne sont, sont pas révoltés, hein. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
Et est-ce que, justement, élever, éduquer, c'est pas tenter de briser pour provoquer la révolte? Briser, le terme est un peu fort, pardon. Est-ce que c'est pas tenter de créer une résistance, ouais? Est-ce que c'est le rôle de l'enseignant, ça?
Oh là, de
l'adulte
l'enseignant.
Ou de l'adulte, non.
Bah, on veut qu'ils fassent leur vie, qu'ils soient autonomes et qu'ils prennent de vraies décisions, quitte à ce que ça vienne vraiment d'eux, quoi. Et c'est vrai que voilà, des fois on... C'est pas la réponse qu'on a, et qu'est-ce qu'on peut faire nous? C'est quand même leur vie, c'est quand même. Il faut aussi les reconnaître en tant que personnes, et on n'a pas à leur imposer la révolte non plus, quoi. J'ai pas joué les tyranniques pour forcer pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà.
Donc, pas scénariser le truc.
Non, voilà. Dans mes livres, je me permets tout, voilà, mais pas avec mes propres enfants, voilà.
Pour votre position en tant qu'adulte, mais on peut être tyrannique avec ses voisins adultes, on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour être tyrannique. Hein.
Oui, moi je suis très tyrannique. Ouais, je pense que je suis. Demande à mon éditeur.
Après, peut-être aussi par rapport à nos personnages adolescents, moi, mon expérience d'auteur, j'ai tendance à être assez tyrannique au niveau de mon plan directeur quand j'aborde un roman, donc je sais exactement où je veux aller et ce que doivent faire mes personnages, mais très vite ils se révoltent contre mes intentions de départ et ils suivent leur propre chemin. Donc c'est une expérience d'écriture que j'ai tous les jours. Par rapport déjà à mes personnages.
Et comment on gère cette révolte du personnage?
Bah finalement, c'est ça qui est intéressant dans l'écriture, c'est qu'il y a une surprise et qu'on ne sait pas ce qui va se passer à la page d'après, même si on a une vague idée.
Ça, c'est pour tous les lecteurs qui viennent dire « Mais vous savez ce qui va se passer à la fin ?» Non. Une question peut-être pour terminer? Non. Bon, je crois qu'on On a fait le tour de la révolte, peut-être. Non, il en reste beaucoup encore à explorer. Bon, bah, merci à vous et à bientôt.
Merci.